L'Hermier.
Bonjour.
Merci de nous accorder de votre temps parce qu'il est très très chargé ces temps-ci. On se rencontre pour Le Malade Imaginaire que vous reprenez 8 ans après, avec une légère différence dans la distribution, mais vous retrouvez Gilles Plouac, que vous adorez, et Molière, qui est votre grand amour.
Ouais, c'est une chance infinie de pouvoir compagnonner avec un génie pareil, particulièrement avec cette pièce-là qui est sa toute dernière. Il est mort à l'issue de la quatrième représentation, et là quelque chose de l'ordre de testamentaire. Et ça donne une profondeur de champ, d'humanité, en imaginant cet homme-là écrire ça sur la place de l'art, la place du théâtre dans la vie, le rapport à l'existence, à la finitude, à l'angoisse, et que rares sont, c'est pour ça que je le qualifie de génie, rares sont les auteurs, les autrices qui sont capables de nous faire rire de ça. Et pas en faisant des gags ou des choses, mais vraiment sur le fond. C'est-à-dire de nous toucher, de nous questionner, de nous faire réfléchir et à la fois de nous amuser de nos travers. Ça, c'est rarissime. C'est un bonheur absolu, effectivement, et de compagnonner avec cette équipe-là, avec Madeleine Assaz d'Antoinette, Jacques-Michel d'Emberade, et puis Gilles Privat dans le personnage d'Argan, du malade imaginaire, que j'ai monté pour lui. C'était pour continuer ce que nous avions entamé avec l'École des femmes et qui s'est poursuivi après avec le Cyrano. Et c'est vrai que pour moi, c'est un des plus grands acteurs qui existe, tout simplement, hein, dans la francophonie, et que c'est toujours un bonheur et une chance de le voir naviguer dans une partition comme celle-ci.
Je rebondis sur vos propos, Jean. Quand vous dites que Molière nous fait rire, il parvient à nous faire rire sur des choses qui sont quand même difficiles. Jean-Baptiste Poquelin se savait malade en plus. Et il arrive à se jouer de la médecine, des médecins avec leur langage latinisant et de la mort.
Oui, et il fait cette chose-là qui est absolument insensée, où au début du troisième acte, il y a une discussion avec son frère Bérald qui essaye de le raisonner, de le ramener à la raison en lui disant: mais c'est pas les médecins qui vont vous faire vivre, c'est pas les remèdes qui vont vous faire vivre. Le fondamental, il est à l'intérieur de vous-même, ce sont vos ressources. Et il discute d'un point de vue de qu'est-ce qu'on fait quand on est malade. Faut-il agir, faut-il faire appel à la médecine, aux remèdes, tout ça, ou pas? Et à un moment donné, bon, la discussion tourne court, puisque Argan n'arrive pas à faire la démonstration à son frère. Et son frère lui dit: mais écoutez, moi je vous disais ça juste entre vous, l'idée c'était un peu de vous divertir, et ce que je vous propose c'est d'aller voir une pièce de Molière. Et Argan, le malade imaginaire qui était interprété par Molière, lui répond offusqué: ah, ne me parlez pas de ce Molière, c'est un grand impertinent, s'il vient à tomber malade, tout ce que je souhaite, c'est que les médecins refusent de le soigner et qu'il crève. Il le dit deux fois. Et je pense que la salle était morte de rire de voir Molière se moquer de lui-même comme ça, à travers le personnage de son frère qui lui en parle, alors que lui était en train de mourir lui-même. Et que ça, il y a une force d'insolence, de liberté par rapport à la vie, par rapport à la mort, qui est rarissime, mais encore une fois, qui fait du bien. C'est comme un peu un baroud d'honneur, et je pense que probablement, l'espace des quatre présentations qu'il a réussi à tenir, l'énergie, la force renvoyée par la salle, par le public, lui a permis de tenir et a probablement été aussi un baume pour ces derniers moments.
Et corrigez-moi si je me trompe, mais on le connaissait d'une santé robuste, une solide nature, et en fait, on le voyait juste un peu affaibli, donc on ne croyait pas qu'il était malade.
Oui, il avait traversé plein d'épreuves, hein, au niveau de la maladie, il s'en était toujours remis. Et puis là, voilà, ça s'est empiré. Et puis, de ce qu'on croit savoir d'après les écrits, il avait vraiment des quintes de toux importantes, notamment à la quatrième représentation. Donc il essayait, comme comédien, de trouver des parades. Donc quand il était dans les quintes de toux, il faisait semblant de rire, enfin, il essayait de masquer ça. Et puis, à un moment donné, il était tellement pris, il essayait de se dégager, que visiblement, il se serait fait imploser de l'intérieur en essayant de se dégager. Et donc, il crachait vraiment du sang, ce qui amenait, j'imagine, à la représentation, un truc hallucinant, parce qu'on parle du malade imaginaire. Moi, je pense qu'il est vraiment malade, qu'il est malade de son imaginaire, précisément, et de ses angoisses, et de la peur, de la maladie, de la souffrance, de la mort, et qui se débat. Il met un dispositif autour de lui en place qui soit ostracise les autres, soit les violente, mais encore une fois, c'est un mécanisme que lui met en place par défense.
Et puis les gens vont devoir lutter contre ça et ne pas se laisser faire, dont sa fille Angélique, qui revendique le droit à sa liberté, qui revendique le droit de choisir, le droit de disposer de son corps, soutenue par Toinette et puis par Bérald. Donc il y a un dispositif autour de lui qui essaye de le contrecarrer par plein de façons différentes. Et c'est une des choses qui me touche véritablement dans cette œuvre-là, au-delà de l'aspect autobiographique dont on parlait. C'est que ce qu'on peut observer, c'est que à chaque fois que les personnages sont dans une situation inextricable, qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui sont dans un état de crise, qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit de l'ordre du collectif, ils passent tout le temps par la fiction. C'est-à-dire qu'ils vont inventer un personnage, ils vont se déguiser, ou même arguant à un moment donné contrefaire le mort, en faisant semblant d'être mort pour entendre ce que pense vraiment de lui sa seconde épouse, ou sa fille, ouais. Et c'est comme si Molière, à ce moment-là de son existence, nous léguait ça. C'est-à-dire que la place, la nécessité de l'art ou du théâtre, par extension, dans nos existences. Et que là, je trouve que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, la place de la fiction, l'après, même si on est encore en plein dedans du Covid, mais de recentrer la place de l'art et de la culture comme un bien essentiel, et non pas comme un « viennent ensuite ». Là, c'est magnifique de le voir de la part de cet homme-là, et encore une fois, à ce moment précis de son existence. Donc il nous lègue, il nous donne un secret.
Et alors, pour rebondir sur justement ce que disait de Molière, c'est un précurseur en fait, parce que Argan est un malade imaginaire, et donc il a une névrose évidente. Précurseur par rapport à qui sera les maladies...
Oui, qu'on ne savait pas bien trop gérer. Alors le pauvre Argan, lui, les traitements qu'il subit, ce sont des saignées, c'est-à-dire on le vide d'une partie de son sang, ce sont des clistères, où on enfonce dans le popotin un peu de l'huile chaude avec des huiles essentielles et des plantes pour le vider. Donc il est vidé de tous les côtés. Et il y a plein de moments où on voit que le personnage soit doit se rendre tout simplement aux toilettes ou être affaibli aussi, et c'est ce que Bérald dira. Il dira, mais souvent les malades meurent de leur remède et pas forcément de la maladie. Et il dit une chose, Bérald, magnifique, il dit, mais vous savez, Molière, lui, il dit qu'il n'a de force que pour se battre contre sa maladie, mais pas supporter les remèdes. Et encore une fois, ce qu'on essaye de rendre compte, c'est une ouverture sur ces questions-là. Tous, on a été traversés au moment de la pandémie, de façon personnelle, mais également au niveau de la famille, dans le travail, à des questionnements. Faut-il se vacciner ? Est-ce qu'il ne faut pas le faire ? Les disputes aux fêtes de Noël de ceux qui voulaient ouvrir les fenêtres en grand, et puis ceux qui disaient « on a froid, il y en a ras-le-bol », et de tout ce que ça a provoqué, là aussi, comme crise. Et là, Molière, véritablement, parle de ça, nous parle de ça. Donc le fait de se dire que c'est du 17e, que bien sûr que la médecine a évolué, bien sûr qu'elle a changé, mais que face à l'incertitude, face à la crise, face aux doutes, des doutes existentiels, finalement les mécanismes restent exactement les mêmes. Et que de se dire que c'est une façon de nous apaiser par rapport aux crises qu'on traverse, là, dans le présent et l'ici et maintenant, et on se dit « ah, mon Dieu !» Et de dire « mais ça a existé, on s'en est sorti, et puis il faut prendre un petit peu de recul et de distance et apprendre à faire avec les choses. » Et pas simplement être dans l'action et de la réaction qui peut précipiter parfois à prendre des décisions ou des agissements qui tendent à nous déshumaniser.
Et qui créent des dissensions entre les gens. On comprend l'actualité, la modernité de Molière et le verbe qui est toujours très important pour vous, un verbe très savoureux.
Oui, la langue est sublime et c'est magnifique de se dire, elle n'est pas forcément évidente, ça n'est plus tout à fait la nôtre, hein, objectivement, celle du 17e de Molière, mais par la grâce des comédiennes et des comédiens, par le travail qui est fait, par la lumière, par la scénographie, par tout ça, surtout l'interprétation des artistes, on arrive véritablement à entendre. Et que je trouve que de nous reconnecter avec le français, avec la langue, dans un monde où la littérature est peut-être mal menée ou mal considérée ou n'a pas peut-être la place qu'elle mériterait d'avoir, de pouvoir, avec les plus de 10 000 spectateurs qui nous font l'honneur et la gentillesse de nous rejoindre, de susciter du désir et de la curiosité sur l'apprentissage et le désir d'en apprendre toujours plus de cette langue-là qui est la nôtre, qui est le français, qui est une langue absolument sublissime et qui nous permet d'articuler une pensée. La pensée s'articule autour des mots, et que plus on arrive à s'enrichir, à s'agrandir dans son vocabulaire et à étancher sa soif d'apprendre, alors je pense qu'on peut développer des pensées plus fines, plus précises, plus complexes, et que ça peut éventuellement nous aider à penser à un monde meilleur.
Et cette mise en scène que vous faites du malade imaginaire se termine par un moment savoureux où Argan nous déclame du latin plus ou moins bricolé. Après un stratagème de son frère et de ses complices, il est devenu médecin et il est latinisant.
Ouais, c'est magnifique, c'est son frère qui lui fait une pirouette. Parce que voilà, il dit, en fait, la seule solution à votre problème, c'est que vous deveniez médecin vous-même. Et qu'il suffit, en fait, de porter une robe et des habits, l'habit fait le moine. Vous portez une robe de médecin, il y a tout le monde qui se met à vous considérer comme un médecin. Et puis, il faut baragouiner un petit peu le latin, parce qu'ils savent quelques humanités. Mais... Argan se prend au jeu, et là, Molière s'amuse à mélanger du français, du latin bricolé, de l'italien. Donc, tout ça est extrêmement improbable. Et lui se met à se prendre au jeu et à parler ce latin-là, qui évidemment nous fait mourir de rire, parce qu'on le comprend déjà, parce que c'est tellement improbable dans sa façon de l'inventer, et puis d'être aussi en même temps, en plus de l'amusement, d'être touché par la naïveté et le côté enfantin du jeu que nous propose Molière, et de réactiver ces moteurs-là aujourd'hui, cette part d'enfance qu'il y a en nous, cette part du plaisir du jeu et du partage du jeu. Là aussi, c'est un trait de génie, puis ça termine la représentation comme ça, sur un petit coup magique de Argan qui s'adresse à la salle, et puis qui ouvre l'œuvre, encore une fois, sur les décennies, voire les siècles à venir.
Merci Jean Lhermier pour votre Mirage imaginaire de Molière.
Merci infiniment à vous.